Nous chanterons le temps des cerises et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons, le temps des cerises sifflera bien mieux le merle moqueur.
Et voilà, vous retrouvez Comaguerre pour le premier dossier mensuel de cette année 2024. Et je retrouve avec plaisir Sidi pour une de nos soirées d'hiver, d'été, d'automne, de printemps, aussi nombreuses depuis le temps. Et on passe toujours un bon moment, je le fais coucher très très tard, mais on passe toujours de très très bons moments à nous faire des clins d'œil à travers la vitre. Bien, alors ce soir, je vais vous parler de l'année passée. Puisque comment inaugurer la nouvelle année, si ce n'est en parlant de la nouvelle passée, de l'année passée, et puis de faire un petit peu d'histoire. Et je vais faire de l'histoire parce qu'au fond, dans l'histoire, c'est comme dans la chimie de Lavoisier, rien ne vient de rien. C'est-à-dire que dans toute histoire, même si on remonte à janvier 2023 ou à août ou à juillet 2023, il y a plein d'histoires de bien, bien avant. L'histoire longue est toujours cachée dans les recoins de l'histoire courte. C'est ça dont il faut se rendre compte quand on passe un peu de temps sur les textes, sur les événements, sur les dépêches d'agence, sur les manifestes, sur ce qui est le quotidien de la lecture, de ma lecture, de vos lectures. La lecture que je fais pour Comaguerre, c'est une lecture de la presse internationale en permanence, avec des tas de sujets variés, des sujets très courts, immédiats, un événement, une élection, et puis des sujets beaucoup plus longs, une transformation de la société, des tendances lourdes qui se manifestent petit à petit dans des événements plus petits. Et donc c'est bien cette approche qui est matérialiste, c'est-à-dire, c'est pas pour rien que je fais un clin d'œil à Lavoisier, rien ne vient de rien. C'est-à-dire que toute histoire, même si on l'arrête à l'année écoulée 2023, ces 365 jours de 2023, elle est déjà très riche, et elle est déjà porteuse, et elle avait été, on peut dire la formule, engrossée par des années bien précédentes, bien plus lointaines, pour porter les fruits qu'elle a portés en cette année 2023. C'était ça que je voulais rappeler, parce qu'il ne s'agit pas de faire de l'effet en disant « je considère qu'il s'est passé ceci d'extraordinaire et tout ». Non, je considère au contraire que tout ce qui s'est passé a un sens dans un mouvement beaucoup plus général de l'histoire, et c'est ça que je vais essayer de dégager, pas sous vos yeux, mais dans vos oreilles attentives et j'espère indulgentes. Ceci étant, commençons par ce qui est le substratum, ou la base, de tous les événements de l'activité humaine pendant une année, donc des 8 milliards d'hommes, de leur gouvernement, de leurs entreprises, de leurs activités économiques, de leur vie familiale, etc. Le substrat, c'est l'économie. L'économie, alors ça, on est bourré d'indicatifs, on a des rapports sur ceci et sur cela. Alors, c'est un petit peu tôt, là, en ce 10 janvier 2024, pour avoir les rapports complets sur ce qui s'est passé en 2023, mais on a déjà de solides informations sur l'évolution générale de l'économie mondiale pendant cette période qui vient de s'achever. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Bon, c'est relativement simple. Je vais m'appuyer sur un premier document du Fonds monétaire international. Vous savez qu'on est sous le viseur d'un certain nombre d'organisations internationales. Alors, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, qui est sa petite sœur jumelle, l'OCDE, Office de coopération et de développement économique pour les pays les plus développés qui en sont membres. Et puis après, il s'ajoute à ça d'autres statistiques. Alors, il y a des grandes banques qui en font, et puis vous avez des tas d'organismes qui mettent leur grain de sel là-dessus. J'attends toujours avec intérêt, mais c'est beaucoup plus tard dans l'année, les rapports de l'Organisation internationale du travail, parce qu'ils vont un peu plus au fond dans comment vit le travailleur ou la travailleuse sur la planète, où qu'il soit et quelles que soient ses capacités professionnelles et son métier et son salaire et son revenu, mais ça, ça vient un peu plus tard dans l'année. Mais je vais faire simple en commençant par le Fonds monétaire international. Et vous voyez, déjà, rien que là, il y a des choses très intéressantes. Alors, le Fonds monétaire international, donc, dans ses perspectives qu'il a publiées fin octobre, a quand même dit, en gros, ce qui se passait en 2023. Et il l'a dit pour le monde entier. Donc, il s'agit de perspectives de croissance de la production, le fameux produit intérieur brut. Son analyse était très simple. Donc, pour le monde entier, on passait donc d'une année 2021 à 3,5% de croissance mondiale. On arrivait à 3% pour 2022 et on arrivait, donc il pensait arriver à quelques mois près, c'est exact, à 2,9% pour 2023. C'est-à-dire quand même plutôt une tendance à la baisse, une activité qui n'est pas très très importante. Et vous allez voir que cette évolution globale, qui n'est quand même pas négative, il ne s'agit pas d'une crise mondiale, présente des aspects très très différents d'un morceau du pays de la planète à l'autre. Commençons par les États-Unis, puisqu'il paraît qu'ils sont encore la première puissance économique mondiale, même si certains modes de calcul permettent de le contester. Là, l'évolution est très claire. D'une part, c'est en dessous de la moyenne, 2,1% en 22, 2,1%, et puis les perspectives pour 2024 sont à 1,5%. C'est-à-dire, là aussi, c'est assez bas, et ça ne promet pas de s'améliorer pour 2024. Je vais ensuite dans la région voisine des États-Unis, c'est-à-dire ce qu'ils appellent dans le Fonds monétaire international les Caraïbes et l'Amérique latine. Alors là, on est un peu plus haut pour 2022. On est légèrement en baisse et en dessous des moyennes mondiales pour 2023. On est à 2,3% de croissance du produit intérieur brut. Et on reste au même chiffre, c'est-à-dire assez bas et en dessous des moyennes, de la moyenne mondiale pour 2024. Ensuite, je passe, alors je continue la lecture du graphique devant vous, je passe à l'Afrique subsaharienne. Vous savez que c'est un classique maintenant. On distingue en gros l'Afrique au nord du Sahara, c'est-à-dire en gros les pays qui sont riverains de la Méditerranée, on les connaît, et tous les autres, c'est les subsahariens. Alors c'est très très divers, il y en a beaucoup. Ça va donc de la Mauritanie jusqu'à l'Afrique du Sud, en passant par le Mozambique et la Tanzanie. Bon, ça fait beaucoup de monde. Mais ce qui est frappant, c'est que dans tous les cas, donc sur 2022, 2023 et les perspectives 2024, on est au-dessus de la moyenne mondiale. C'est-à-dire 4% de croissance pour 2022, 3,3% constatés donc l'année d'après, et des perspectives de 4% de croissance pour l'année qui vient. C'est-à-dire qu'on aurait, à la simple lecture de ce graphique qui ne dit pas tout, une tendance à l'amélioration de la situation africaine. On peut revenir beaucoup en détail là-dessus. Je continue cette petite promenade et j'arrive dans ce qui classe dans les économies émergentes ou moins développées d'Asie. Alors dans les émergents, on va compter évidemment la Chine, gros morceau, l'Inde, et puis toute une série d'autres pays plus petits, mais qui sont aussi dans des phases de croissance. Et là, alors, une autre vision du monde s'impose et s'installe, c'est-à-dire que on est au-dessus des moyennes mondiales, à 4,5% en 22. On est à 5,2% pour 23. Et les perspectives sont à 4,8% pour 24. C'est-à-dire là aussi, donc ces pays émergents et donc l'Asie en cours de développement, ce qui exclut le Japon, bien sûr, sont au-dessus des moyennes mondiales. Alors on a un effet qui va se retrouver dans toute une série d'événements dont je vais vous parler tout à l'heure, mais c'est très clair, il y a là un endroit où l'économie va mieux et a des perspectives de développement importantes. Je continue ma petite promenade et j'arrive au Moyen-Orient et à l'Asie centrale. Alors là, deux phénomènes. Un phénomène, donc pour 22, une croissance au-dessus de la moyenne mondiale, un creux pour 2023, et des perspectives de reprise sérieuses pour l'année 2024, donc avec un taux de croissance attendu de 3,4, bientôt au-dessus des moyennes mondiales. Et je finis par le mauvais élève, parce que j'avais prévu cet effet de langage. Le mauvais élève, c'est la zone européenne. La zone européenne qui est à 3,3% de croissance en 22, donc elle est un tout petit peu en dessous de la moyenne mondiale, mais elle fait mieux que les États-Unis par exemple à ce moment-là, moins bien que tous les autres d'ailleurs, mais s'effondre en 2023 pour être à 0,7, c'est le plus bas taux de croissance de toutes les zones mondiales, et ça ne promet pas de s'améliorer pour 2024, puisque le taux de croissance attendu et annoncé par le Fonds monétaire est de 1,2% par rapport à une perspective mondiale, je vous l'ai dit, de 2,9%, par rapport à une perspective mondiale de 4,8% pour l'Asie, de 4% pour l'Afrique subsaharienne, et même pour l'Amérique latine et les Caraïbes, c'est meilleur, c'est à 2,3%. C'est-à-dire, l'économie européenne est l'économie malade de la planète dans la période actuelle. Ça, c'est déjà très très riche d'enseignements. Alors, ça fait, on survole bien entendu, on ne voit pas les effets d'inégalité de revenus, les détails par pays, etc. Mais je vais juste citer un fait qui est très très clair, c'est que pour la première fois depuis des années, et quand je dis des années, depuis des décennies, le taux de croissance du PIB de l'Allemagne en 2023 est inférieur à zéro, c'est-à-dire l'Allemagne est en déficit économique en 2023 et elle va probablement le rester en 2024. Or l'Allemagne, c'était, et ça reste encore, vu la taille de sa population par rapport à d'autres, il y a plus de 80 millions d'habitants, il y a une forte industrie qui est en train de s'écrouler, sous toute une série d'aspects, pour toute une série de raisons qui font partie de la géopolitique et qui ne rentrent pas dans ces statistiques, mais elles sont derrière là, ces données, c'est-à-dire que l'Allemagne n'est plus le moteur de la croissance européenne. Et la croissance européenne stagne. Stagne, la France est stagnante, à des chiffres un petit peu meilleurs, enfin on est un peu en-dessus de 1%, mais à peine, l'Italie stagne, les Pays-Bas stagnent, tout le monde stagne, s'en sortent un petit peu mieux que les autres, les Espagnols et les Portugais, mais à peine. Mais donc, en gros, l'Europe est l'économie malade du monde pour les années qui viennent. Voilà une donnée qui éclaire toute une série de phénomènes et qui éclaire aussi, qui nous amène à comprendre le type de conflictualité sociale, les rapports sociaux que nous allons vivre ici, dans notre pays, dans les mois qui viennent. C'est-à-dire que il faut bien comprendre, et on a tous compris, que quand les revenus des entreprises baissent, quand la production baisse, ce n'est pas le capital qui souffre en premier, c'est le travail. Et donc ça débouche nécessairement sur des politiques d'austérité, de réduction des dépenses hospitalières, de réduction des dépenses scolaires. Enfin, tout est derrière ces chiffres secs, brutaux, qui disent que l'économie ne va pas bien et stagne, bouge à peine, etc. Même s'il y a des changements dans l'activité, des rachats. Le capital circule, mais le travail ne trouve pas son compte dans ces périodes-là. Ceci posé, il faut ajouter une autre dimension, qui est celle qui est donnée non pas par le Fonds monétaire international, mais vous voyez, on a déjà un éclairage, une planète beaucoup plus divisée qu'il n'y paraît, une Asie qui est en pleine forme, on peut le dire, hein, des taux de croissance de 4-5%, on aimerait bien, et il y a longtemps qu'on ne les a pas connus sous nos cieux, et puis la perspective de ce qui se passe dans le plus long terme, et ça c'est la Banque mondiale qui en est un peu l'observateur. Qu'est-ce qu'elle fait la Banque mondiale ? Eh bien, elle suit la réalisation de ce qu'on a appelé les objectifs du millénium. En quelques mots, c'est très simple. En 2020, ces messieurs, donc, et avec l'appui de l'ONU, se sont dit « qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour qu'en 2030, la planète et donc l'humanité qui l'habite aille mieux ?» Il y avait toute une série d'objectifs quantitatifs sur l'accès à l'enseignement, l'accès aux soins, la durée de vie, la lutte contre la pollution des eaux. Enfin, il y avait toute une série de facteurs qui étaient des objectifs de progrès collectif de l'humanité. Alors c'est très joli, hein, un banquier il est très content de dire qu'il va faire progresser l'humanité. Ça cache bien entendu des inégalités entre pays, des inégalités entre classes sociales, des inégalités entre femmes et hommes. Mais il y avait quand même une dynamique qui était réaliser les objectifs du millénium, donc sur cette décennie 2020-2030. Ce que dit la Banque mondiale à la fin de 2023, c'est très clair, on arrive à 2024, donc c'est la moitié de la décennie, eh bien, on n'y est pas du tout, on ne réalisera pas, sauf miracle, il n'y a pas de miracle possible sur ces événements de longue durée, on ne réalisera pas les objectifs du millénium. C'est-à-dire qu'au fond, les ambitions qui pouvaient s'afficher pour améliorer la condition humaine, dans des termes très très généraux, ne sont pas en voie d'être réalisées. On est à mi-chemin du parcours de ce millénium et on n'y arrive pas. On n'y arrive pas, alors on n'y arrive pas, bien entendu, en Europe, mais il y a plein d'endroits où on n'y arrive pas. Bon, ça, c'est le contexte général. Qu'est-ce qu'il faut dire une fois qu'on a dit ça ? C'est-à-dire, des zones géographiques nettement différenciées, des objectifs globaux de croissance de l'humanité qui ne sont pas prêts d'être atteints, et donc ça veut dire qu'il y en a même qui vont régresser, hein, et des objectifs comme l'accès à l'eau potable, des choses aussi élémentaires que ça, l'accès aux soins élémentaires de santé, etc., ne seront pas réalisés pour quelques centaines de millions de personnes, voire un peu plus. Alors ça ne sera pas immédiatement sensible, encore qu'on le voit à la mendicité dans nos rues, ça ne sera pas immédiatement sensible brutalement et physiquement et massivement dans nos sociétés. Mais ces phénomènes jouent là aussi, parce que quand il y a partage du gâteau plus mauvais, c'est-à-dire le gâteau ne grossit pas et donc on ne peut pas le faire partager, les parts des plus pauvres se restreignent. Nous voilà donc dans ce contexte d'une économie en situation donc très contrastée d'un endroit à l'autre, et puis des zones où effectivement il y a de vraies difficultés qui sont là. Qu'est-ce que ça veut dire au point de vue de l'analyse politique et sociale à laquelle je voulais me livrer devant vous pour cette année 2024 et pour le bilan donc de 2023? Ça veut dire qu'effectivement, et ça c'est un constat historique, c'est dans ces périodes de crise économique où effectivement les tensions sociales s'exacerbent, où les rapports de classe deviennent plus durs, et les rapports entre pays peuvent devenir plus durs, parce qu'il y a des problèmes de partage de la richesse, c'est dans ces périodes-là que les transformations profondes se manifestent et existent. Et c'est ça le double enseignement, c'est-à-dire difficultés économiques, et comme il y a des difficultés économiques, les rapports sociaux, au lieu d'être fluides, simples, il y a de l'argent distribué, tout le monde en a un petit morceau et les choses s'arrangent très bien, là c'est plus possible. C'est plus possible, et donc on va voir que cette année 2023, elle a été caractérisée par toute une série d'événements politiques qui étaient inattendus. Alors j'en prends un parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais ça c'est un véritable bouleversement dans la géopolitique de l'Asie. Vous avez peut-être suivi, on n'a peut-être pas beaucoup insisté là-dessus, sur le fait que pour la première fois depuis longtemps, le président de la Corée du Nord avait quitté son pays. Il avait quitté son pays, bien sûr, dans un train blindé, parce qu'il est quand même un peu prudent, mais il est allé rencontrer donc des Russes et des dirigeants russes, pas très loin, mais la Russie a, vous le savez, une frontière commune, même si elle est petite, avec la République de Corée. Et il a échangé sur toute une série de questions technologiques, en particulier sur la balistique, sur les fusées, sur l'arme nucléaire probablement, sur l'accès à l'uranium, sur des tas de sujets qui sont tout à fait stratégiques. Et en fait, il a montré d'une part qu'il était revenu à un comportement, c'était pas un peu ce pelé, ce galeux qui faisait des tas de problèmes et qui compliquait la vie du monde entier. Non, il a été accepté par la Russie comme un interlocuteur intéressant. Il a été accepté par la Chine comme un interlocuteur intéressant, et il est sorti de sa tanière. Et il est sorti de sa tanière en disant « Moi, de toute façon, ce que je vous ai dit depuis des décennies, c'est que je n'accepte pas qu'on décide de l'avenir de mon pays à ma place. » Et c'est pour ça que je dis à ceux qui voudraient me faire disparaître de la surface de la planète que je ne me laisserai pas faire. Et ce discours qui tenait un peu tout seul, dans les années précédentes 2023, maintenant il est allé le tenir auprès des responsables russes, il est allé le tenir auprès des responsables chinois, il est allé le tenir aussi auprès de certains de ses voisins, c'est-à-dire, évidemment, je vais vous dire lesquels, et donc il est sorti d'une espèce d'isolement dans lequel on l'avait confié, en disant pourvu qu'il meure dans son coin et qu'on n'en entende plus parler, c'était ça. La position occidentale était très claire, hein, débarrassons-nous de ça, il n'y a rien à en dire, c'est pas très intéressant. Bon, en fait, il existe politiquement. Et il existe tellement politiquement, et c'est là que je voulais arriver, il existe tellement politiquement que les États-Unis ont été obligés, toutes affaires cessantes, voyant que c'était ça la réalité nouvelle de la Corée du Nord, d'aller fabriquer en 2023 une alliance contre la République de Corée du Nord, la République populaire et démocratique. Et dans cette alliance, qui a bien entendu les États-Unis qui sont les initiateurs, ils ont trouvé sur leur chemin le Japon, toujours docile, qui est quand même encore la troisième puissance économique mondiale, et ils ont ramassé au passage la Corée du Sud. Et là, les bras vous en tombent. C'est-à-dire que les Japonais ont accepté d'être dans une alliance avec les Coréens du Sud, ou plutôt, encore que les Japonais acceptent, si c'était le choix des États-Unis, hélas, ça peut s'expliquer, mais que les Coréens du Sud acceptent d'être dans une alliance contre la Corée du Nord avec les Japonais, c'est historiquement bouleversant. Je dis bouleversant parce que ça l'est. Il faut se souvenir, quand on assiste à un phénomène de cette taille-là, que de 1910 à 1945, les Japonais ont colonisé la Corée d'une façon, d'une cruauté jamais égalée. C'est-à-dire qu'ils voulaient éliminer la culture et la langue coréenne. Ce n'était pas simplement on colonise, c'était l'élimination d'un peuple. Et de son histoire et de sa culture. C'est pas rien. Il était interdit de porter un nom coréen. Il était interdit de parler coréen. Donc tout ça laisse des traces. Ces 30 années de servitude et de résistance à un génocide. Alors c'était pas un génocide au sens qu'il n'y avait pas élimination physique, c'était ce qu'on appelle maintenant, la catégorie existe, c'était un ethnocide bien organisé à la façon dont les fascistes japonais savaient faire. Ils l'ont essayé en Chine, ça n'a pas marché parce que la Chine était trop grosse, mais ils l'ont fait en Corée. Alors quand on voit aujourd'hui que les Coréens du Sud, les quelques 40 millions de Coréens du Sud, acceptent de marcher la main dans la main avec le Japon qui leur a fait ce qu'il leur a fait il n'y a pas si longtemps, et avec les États-Unis, on se dit qu'il y a quelque chose de bouleversant. Et ce quelque chose de bouleversant, ça veut dire que la politique suivie par la République populaire et démocratique de Corée a porté ses fruits. C'est-à-dire que maintenant, il se fait respecter. Et il s'est fait respecter comment ? Par la seule façon qui existe de se faire respecter aujourd'hui sur cette planète gouvernée encore par les impérialistes, consistant à dire « si vous m'attaquez, je me défendrai. Si vous m'envoyez une bombe atomique, j'en envoierai une ». Et ça, c'est le fameux jeu en disant « si tu m'attaques avec la bombe atomique, je riposte. Si tu meurs, je meurs. Je meurs et tu meurs. Hein, on meurt tous les deux ». Il n'y a pas à dire « je t'élimine, je fais comme disait le général Schwarzkopf en commençant l'invasion de l'Irak en 1991, on va vous ramener à l'âge de pierre ». Non, ça c'est plus possible de le dire parce que si jamais il y avait un général américain qui se permettait de dire au président de la Corée du Nord « je vais te ramener à l'âge de pierre », lui répondrait « ben moi aussi, si on va à l'âge de pierre, on y va tous les deux ensemble ». Vous avez compris le langage ? Et pourtant, c'est comme ça qu'il faut parler à l'Empire. Parce qu'autrement, l'Empire a tendance à ne pas comprendre. Et pour dire la panique de ce courage et de la réussite de cette politique de la Corée du Nord, il faut bien se rendre compte de ce qu'ils ont mis en œuvre, c'est-à-dire cette alliance étonnante entre le Japon, les États-Unis et la Corée du Sud. Qu'est-ce que ça va donner dans les périodes qui viennent ? Une tension, alors on va parler de la tension qui s'accroît, on va voir arriver, c'est déjà arrivé ces dernières semaines, des sous-marins porteurs d'armes nucléaires, des sous-marins des États-Unis porteurs d'armes nucléaires dans les ports sud-coréens, et à chaque fois, la Corée du Nord dira « Attendez, moi aussi j'ai des missiles de longue portée, j'ai des têtes nucléaires à mettre dessus, etc. Bon, » donc, chaque fois que vous manifesterez une volonté d'agression, je vous montrerai que je suis prêt à y répondre. Il faudra bien un jour que, quelque part, le calme revienne. Mais ça se fera avec une Corée du Nord qui n'aura pas été éliminée de la surface de la Terre. Et la grande évolution qu'il faut attendre, et que j'espère pour ce qui me concerne, c'est que ce soit les Coréens du Sud qui se rendent compte que, au fond, la Corée du Nord défend la culture de la Corée, elle défend la langue de la Corée, et quand on fait une alliance entre les deux morceaux de la Corée, on a affaire à une puissance très très intéressante qui n'a rien à envier au Japon et qui peut très bien se passer de la tutelle des États-Unis. C'est le premier cas. Le deuxième cas, donc de bouleversement, s'est passé dans le Sahel. Alors là, on a suivi ça d'un peu plus près dans notre pays parce que c'était notre zone d'influence, dans nos zones coloniales ou néocoloniales. Ce qui s'est passé, et je résume parce qu'on a suivi heureusement là, les événements d'un peu plus près, c'est très très simple, c'est-à-dire il y a trois pays, donc du Sahel, ex-colonie française, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui, l'un après l'autre et dans des circonstances variées, ont décidé de rompre avec le colonisateur. Alors, en fait, c'est tout à fait clair. Donc, il y a eu des petits coups d'État militaires sans grosse violence. D'ailleurs, il n'y a pas eu d'affrontement. C'est-à-dire qu'il y a une équipe qui a poussé à la porte une autre qui était trop fidèle et trop gouverné par le colonisateur français. Et donc, il y a des nouvelles équipes. Et ça, c'est très, très intéressant, puisque, au fond, on a une nouvelle géographie qui se dessine. Et ça a été très intéressant parce que, quand ces phénomènes se sont passés au Burkina et au Niger, la France, qui était embêtée, la France coloniale était très embêtée, parce que vous, moi, ça ne nous gêne pas au jour le jour l'activité de la France au Burkina Faso ou en Côte d'Ivoire ou au Niger. Ça gêne des intérêts plus importants qui sont les intérêts de grandes entreprises françaises. C'est-à-dire que ça gêne les intérêts des grandes banques, ça gère les intérêts d'Orange, ça allège les intérêts de Bouygues, etc. Et ces gens-là, quand ils voient qu'une colonie, fut-elle décolonisée pour la forme, est en train de prendre son indépendance, ça veut dire tout simplement que ce ne sera plus Bouygues qui aura tous les chantiers de travaux publics, ce ne sera plus Orange qui aura tous les réseaux de télécommunications, ce ne sera plus Total qui aura toutes les stations-service. C'est ça que ça veut dire le colonialisme. On dit c'est méchant, c'est raciste. C'est pas ça, c'est de l'argent. C'est de l'argent des grandes entreprises capitalistes qui est en cause. Et l'État est l'organisateur de ce pillage des économies africaines par les multinationales françaises. Alors ça ne veut pas dire que ces trois régimes, celui du Mali, celui du Burkina Faso et celui du Niger, sont devenus du jour au lendemain des régimes socialistes. Ça veut dire simplement qu'ils ont secoué, ils ont défait un lien, ils ont défait une espèce de carcan qu'ils avaient qui les obligeait à travailler avec la France, à avoir des soldats français qui les surveillent en permanence, à avoir des entreprises françaises qui gagnent tous les marchés, etc. Ça, c'est ce lien là est défait. Ce lien-là est défait. Ça ne veut pas dire que d'autres n'essayeront pas de travailler avec eux, mais ils ont fait ce geste de dire « nous, on va commencer à choisir avec qui nous travaillons ». Et là, ils ont du choix, c'est-à-dire qu'ils peuvent travailler, on va nous dire, avec une milice russe. Bon, bien sûr, on va nous raconter cette histoire-là. Ils vont travailler avec une entreprise chinoise qui s'est créé un réseau de chemin de fer. Ils vont travailler avec une entreprise turque qui a de grosses possibilités en matière de bâtiments et de travaux publics. Ils vont travailler avec une entreprise indienne. Ils vont avoir le choix, ils vont avoir la liberté de faire travailler au meilleur prix possible, les sociétés qui répondent à des besoins qu'ils ont et qui sont évidemment très importants. C'est beaucoup, c'est-à-dire c'est une prise d'autonomie par rapport au carcan colonial. Alors on va vous dire, et je le dis, que les États-Unis ont gardé une base militaire très importante dans le nord du Niger, alors que les troupes françaises sont parties. Ben ça, les militaires qui sont à la tête du Niger le savent, hein, et à eux de faire en sorte que cette base militaire ne soit pas une façon de coloniser le Niger d'une autre façon. Ça, c'est à eux de voir, c'est leur problème. Mais simplement, ils ont pris un peu de liberté par rapport à une colonisation qui a commencé il y a très longtemps, et ils sont émancipés de ce schéma qu'on avait dans nos têtes. À partir de 1960, tous ces pays ont été indépendants. Ils ne l'étaient pas. Et c'est ça que ces jeunes militaires ont dit, redit et qui continueront à dire. Maintenant, nous sommes un peu plus libres de mouvement. Ce n'est pas la France qui prend toutes les décisions à notre place. Ça ne veut pas dire qu'on est riche, développé. Ça veut dire qu'on peut, déjà, on est capable. On a fait des études, on sait lire, on sait écrire, on sait parler d'autres langues que le français éventuellement. Et on va négocier avec des gens pour lesquels on va avoir besoin d'une intervention technique sur des choses qu'on ne maîtrise pas, sur des systèmes qu'on ne maîtrise pas. Voilà. On prend la maîtrise progressive de notre développement. Ça, c'est énorme. Et comment ça s'est fait ? Alors, ça ne s'est pas fait tout seul. Vous savez qu'au moment où il y a eu ces deux coups d'État, la réaction de la France, ça a été de dire « je fais un coup d'État militaire ». Alors, la France n'est plus en capacité, ni politique, ni militaire, de fabriquer comme ça un coup d'État et d'envoyer des troupes françaises. Alors, il y en a des troupes françaises, il y en a plus maintenant au Niger, il n'y en a plus au Burkina, il y en a encore en Côte d'Ivoire, par exemple. Mais la France ne pouvait plus politiquement, et elle n'avait pas même les moyens financiers de mener une opération militaire. Et puis, elle aurait été soumise à l'opprobre mondial entière. Bon, donc, ce n'était pas possible. Donc, la France avait trouvé, parce que le néocolonialisme s'est bien organisé, avait trouvé une série d'autres pays qui sont organisés dans la communauté économique des États d'Afrique occidentale, la CEDEAO, avait trouvé des gens à qui elle disait ben, « allez faire la police, allez nous renverser cette junte-là qui vient de prendre le pouvoir à Niamey ou à Ouagadougou ». Bon. Et il se trouve que dans cette CEDEAO, il y avait des gens qui étaient, alors il y avait des gens qui étaient tout prêts à le faire puisqu'ils sont là pour ça. Et je pense à Alassane Ouattara, l'ivoirien. Mais il y avait d'autres gens qui se faisaient un peu tirer l'oreille. En particulier, le plus gros d'entre eux, le Nigérien, qui disait, qu'est-ce que c'est, je veux faire une opération militaire contre un autre pays africain pour faire plaisir aux intérêts des capitalistes français et pour faire plaisir à Macron. Moi, je joue pas ce jeu-là, ça m'intéresse pas. Et en fait, ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Et ça, c'était un événement de première grandeur. C'est-à-dire que la France n'a pas réussi à diviser les Africains entre eux pour les faire s'entretuer. Mais c'est une avancée majeure. C'est une avancée majeure parce que le colonialisme, ça consiste aussi à faire s'entretuer des gens qu'on veut diminuer, affaiblir. Et plus ils s'affaiblissent, plus ils s'entretuent, plus ils s'affaiblissent. Et c'est tant mieux. Et c'est le colonisateur qui profite de ces situations. Ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Et donc la riposte, et on en est là maintenant, la riposte de ces trois pays à cet échec des manœuvres néocoloniales a été la création, ça vient de se faire, d'un groupe régional d'associations économiques et stratégiques qui consiste à dire nous allons travailler ensemble. Donc en rassemblant nos forces, en rassemblant nos populations, en rassemblant notre expertise et tous les cadres que nous avons dans tous les domaines et tous les paysans, etc. Et toutes les cultures que nous maîtrisons et donc nous connaissons les façons, les modes de procéder. Et on va aussi se doter d'une alliance militaire. Ce qui veut dire, alors c'est très très important, ce qui veut dire que si jamais la France avait encore la mauvaise idée de dire « je vais renverser la junte de Ouagadougou ». Eh bien, ils auraient affaire à l'armée du Niger, ils auraient affaire à l'armée du Mali. C'est des armées qui sont désormais indépendantes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'officiers français pour leur dire comment on fait. Il y a dans ces armées-là des officiers qui ont été formés par l'armée française, mais pas que. Il y en a aussi qui ont été formés aux États-Unis. Il y en a d'autres qui ont été formés en Russie. Mais il y a des gens capables, qui sont capables d'organiser la défense de leur territoire et qui n'iront pas chercher le colonisateur pour le défendre à leur place. C'est un bouleversement. C'est un bouleversement alors, qui n'a pas porté tous ses fruits, mais on a une page qui s'est tournée, c'est-à-dire que le néocolonialisme français ne peut plus faire la loi sur ces territoires, loi qu'il faisait depuis la colonisation et qu'il avait continué à faire depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Il reste encore alors, quelques îlots de subordination totale, au premier rang desquels je place la Côte d'Ivoire, subsidiairement le Gabon probablement, le Togo commence à se poser des questions et reste la question du Sénégal. Question du Sénégal, puisqu'il y a une difficulté politique, il y a un blocage politique, c'est-à-dire que si M. Macky Sall, président actuel, arrive à imposer son candidat et à empêcher que l'opposition arrive au pouvoir, il va continuer à servir les intérêts de la France. Mais cette affaire-là n'est pas réglée aujourd'hui, on verra comment ça va se passer, mais il y a déjà potentiellement au Sénégal toute une série de militants, toute une série de responsables politiques qui savent effectivement qu'il faut tourner cette page-là. Je rappelle qu'il y a eu un moment très très important qui a été le moment de la fusion entre le Mali et le Sénégal, qui était donc une perspective d'avenir qui donnait en plus une ouverture sur la mer au Mali. Il y avait la possibilité d'un État très fort et très puissant à cet endroit-là. Tout ça est ouvert, mais disons que les pages se sont tournées d'une façon accélérée. Troisième chose, c'est un tout autre domaine, mais ce qui se passe aussi. Et là aussi, rien ne vient depuis le 1er janvier 2023. Il y a des choses qui étaient déjà en cours. Mais il y a quand même toute une série d'émergences dans les technologies nouvelles qui sont en train de bouleverser aussi l'activité humaine sur la planète. J'en ai choisi, alors c'est un peu limité, difficile, il faudrait faire une émission entière, mais enfin j'en ai choisi quelques-unes. La première, c'est la question des armes hypersoniques et de tous les véhicules hypersoniques. Alors on savait que ça existait, on savait que c'était praticable, vous savez, techniquement praticable et qu'on pouvait fabriquer des véhicules hypersoniques, donc des fusées. On savait qu'on pouvait en particulier en faire des armes puisqu'on pouvait donc à la tête d'une fusée hypersonique ou d'un missile hypersonique mettre une arme ou mettre autre chose. Et donc ça marche puisque la Russie a démontré qu'elle savait faire ça, elle l'avait annoncé, c'était vrai, c'était pas simplement du bluff, elle l'avait annoncé et elle utilise aujourd'hui des armes hypersoniques. Alors les armes hypersoniques, ça bouleverse l'art de la guerre en ce sens que rien ne peut les arrêter. Et c'est très précis dans son tir. Donc, c'est un progrès technologique qui est utilisé aujourd'hui à des fins guerrières, mais qui modifie considérablement les rapports de force militaires. Parce que vous pouvez faire tout ce que vous voulez quand vous êtes de l'autre côté, le missile hypersonique russe va arriver là où il a décidé qu'il devrait aller. Bon. Première donnée. Deuxième donnée, beaucoup plus large, c'est ce qu'on appelle les communications quantiques. Alors je vais être très très rapide là-dessus aussi. Vous savez que les quantas, donc de la théorie des quantas, sont des énergies qui sont celles des photons et pas celles des électrons comme dans la chimie nucléaire classique. Bon. Il est possible aujourd'hui, je ne rentre pas dans les détails, mais avec le système quantique, les communications quantiques, il est possible aujourd'hui de fabriquer entre deux personnes qui se connaissent et qui sont d'accord un système de transfert d'informations totalement inviolable et qu'on fait passer ensuite par des fibres optiques à la vitesse que vous connaissez. Ça reste vrai. Bon. Donc on a donc une nouvelle donne dans la communication entre pays ou entre entreprises ou tout ce qu'on veut. La communication quantique est une communication inviolable. Alors vous voyez que là aussi, on fait un saut technologique énorme, qui n'est pas nécessairement guerrier d'ailleurs, mais tout à fait énorme. Troisième point sur lequel je voudrais insister, parce qu'en France, on est très sensible là-dessus. Il y a aujourd'hui d'autres techniques que celles que nous utilisons dans l'économie française pour fabriquer de l'électricité à partir de centrales nucléaires. Il y a d'autres techniques de centrales nucléaires que nous n'avons pas utilisées. En gros, et là aussi, je vais faire très simple, parce que je ne suis pas chroniqueur scientifique et ce n'est pas le but de cette émission. Nous utilisions en France, et la plupart des centrales atomiques actuelles de la génération passée, disons, qui sont en service, sont des espèces de moteurs de sous-marins nucléaires grossis. C'est-à-dire c'est une seule filière, une seule technique de centrale nucléaire qui a été utilisée massivement. En fait, aujourd'hui, et en particulier en Chine, il y a des centrales qu'on appelle de troisième génération qui ont des performances bien supérieures et surtout des effets indirects qui sont connus sur les déchets qui sont bien plus intéressants que ce que nous faisons avec nos centrales à nous. Donc là aussi, il y a un réel avenir pour le nucléaire et je vous surprendrai à peine en disant que la Russie aussi est très avancée dans ce domaine-là et qu'aujourd'hui, alors aussi, grand bouleversement par rapport à nos rois de l'atome français, la Russie est pratiquement le pays qui vend des centrales nucléaires aujourd'hui de ce nouveau type dans le monde entier. Voilà donc des domaines qui sont porteurs. Alors on vous parlera beaucoup de l'intelligence artificielle. Ce que je vous ai dit, c'était justement pour ne pas me centrer sur l'intelligence artificielle, parce qu'il y a beaucoup d'autres domaines où on a des avancées technologiques porteuses de grandes transformations dans les rapports politiques, économiques et sociaux. Et puis, des surprises, parce que là c'est totalement inattendu, mais là aussi ça venait de loin. Comment on peut expliquer que la Chine ait réussi à faire se serrer la main et à faire rétablir les relations diplomatiques entre l'Iran et l'Arabie saoudite ? Parce qu'on nous avait expliqué deux islams complètement différents, les chiites intransigeants du côté des ayatollahs, les wahhabites intransigeants du côté de la Mecque et de Riyad, etc. Ils ne s'entendront jamais. Alors, ils se sont entendus parce que d'abord, petit à petit, ils ont fait connaissance. Alors, ils ne se sont pas retrouvés tous les deux, mais ils se sont retrouvés en même temps dans l'OPEP+, c'est-à-dire l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, plus la Russie. Et donc, on parle affaires, on fait connaissance, on voit qui réfléchit, on voit qui est intelligent, on voit qui se comporte correctement, on voit qui respecte sa parole dans les négociations. Et donc, petit à petit, on fait connaissance. Et puis, on fait connaissance, comme la Chine avec l'Arabie saoudite et l'Iran, parce qu'on est client et qu'on vient négocier les prix et qu'on voit si, effectivement, les relations d'affaires sont correctes, si on n'est pas roulé dans la farine, si l'interlocuteur respecte ses engagements, etc. On apprend, on fait connaissance. Et un beau jour, qui a été en 2023, la Chine a dit, maintenant, bon, on se connaît suffisamment, on va se faire confiance, vous restez chiite, vous êtes wahhabite et sunnite et tout, c'est pas un problème, ça c'est vos affaires intérieures, mais pour les affaires touchant l'avenir du monde et l'avenir de la région dans laquelle vous vivez, qui est la principale région pétrolière du monde, vous devez commencer à vous comprendre. Ce qui fut fait. Mais qui aurait dit, s'il n'avait pas suivi l'évolution donc des contacts entre la Chine, l'Arabie Saoudite et l'Iran, entre le rôle de la Russie dans le secteur pétrolier, etc., qui aurait dit que ça se passerait? Ben, c'était prêt déjà, c'est, le fruit était mûr, il a mûri en 2023. Et il va porter des fruits, il va porter des fruits, il va porter des fruits en particulier sur la question palestinienne. Alors ça ne se voit pas aujourd'hui, c'est dur de dire qu'il va porter des fruits sur la question palestinienne, mais évidemment, évidemment, parce que si le Hamas et la résistance palestinienne ont décidé que c'était le moment de porter un coup, c'est-à-dire de porter un coup, c'est-à-dire de reconquérir la Palestine, c'est ça qui est en cours. Il ne faut pas avoir d'illusions. C'est ça qui est en cours, reconquérir la Palestine qui leur a été volée. Eh bien, ils l'ont fait parce qu'ils savaient qu'ils auraient beaucoup de gens qui seraient d'accord avec eux et qu'il n'y aurait pas un traître qui leur compliquerait la tâche et qui travaillerait pour Israël. C'est ça qui est très très important, c'est-à-dire qu'avec les relations qu'entretiennent aujourd'hui l'Iran, l'Arabie Saoudite, l'Égypte et la Ligue arabe, personne n'osera trahir les Palestiniens. Alors les Palestiniens font ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire libérer leur tôle, c'est pas à d'autres de le faire, c'est à eux, mais ils n'ont personne qui leur donnera un coup de poignard dans le dos. Ça, c'est remarquable, ce jeu donc de dire « maintenant vous parlez, vous reconnaissez l'un et l'autre et tout, et vous arrêtez de dire « les chiites sont meilleurs que les wahhabites et les sunnites, ceci et ça, ça, c'est pour vous, c'est des affaires d'opinion, de culture, etc. » Les intérêts des populations vivantes aujourd'hui, qu'elles soient en Arabie, qu'elles soient en Palestine, en Iran, c'est qu'effectivement vous entendiez. Parce que si vous ne vous entendez pas, la leçon est claire, c'est les autres qui s'entendront sur votre dos. Vous avez bien compris ça maintenant. Et si pourquoi ? C'est pourquoi la question palestinienne n'avançait pas, parce qu'il y avait toujours un traître dans le camp des soi-disant amis de la Palestine. Ça, c'est plus possible. Alors, il y aura peut-être encore des petits mouvements marginaux, mais la page est tournée. Et la page est tellement tournée que c'est les Palestiniens qui ont dit maintenant, dans ce contexte, j'insiste, dans ce contexte, nous pouvons commencer à libérer notre territoire. C'est en cours. C'est en cours dans la douleur, c'est en cours dans l'horreur pour certains. Mais en fait, c'est en même temps, c'est en cours et ça dévoile les capacités d'atrocité que peut commettre l'impérialisme, qu'il soit sioniste ou états-unien. C'est la même chose. Dernier événement inattendu aussi, et c'est exactement dans la même région et pour les mêmes raisons, qu'on apprend, ça s'est passé au mois de décembre, là c'était une espèce de concrétisation de cette année 2023, décidément pas ordinaire, Monsieur Poutine prend son avion, l'avion présidentiel, il en a un comme tout le monde, et par surprise, et dans la journée, il va dire bonjour, pas que bonjour, au monarque saoudien, et dans la même journée, il va dans les Émirats Arabes Unis, donc il va à Dubaï, je ne sais pas si c'est à Dubaï ou à Abu Dhabi qu'il est allé, mais enfin peu importe, et il revient le soir chez lui. Bon. Et donc il le fait, c'est-à-dire qu'il a évidemment averti tous les gens qui surveillent les cieux, et vous imaginez qu'il y a autour de cette région tout ce qu'il faut, le système d'observation des satellites américains, des bateaux de guerre, etc., etc. Bon, il a prévenu qu'il faisait ça, il est venu escorté de 4 chasseurs pour éviter qu'on lui fasse des misères, et donc il a été accueilli de façon quasi triomphale, mais visite d'État, donc visite de chef d'État à chef d'État, il a été accueilli remarquablement, aussi bien à Riyad qu'aux Émirats Arabes Unis. Bon. Se permettre de faire ça, ça veut dire qu'on est très sûr qu'on ne sera pas trahi ni par l'un ni par l'autre, hein, parce que là, c'est la mort si vous êtes trahi. Bon, c'est très très cher. Bon. Donc on ne sera pas trahi, qu'on a de bonnes relations, qu'on peut se faire confiance, et donc ça change beaucoup de données sur la scène internationale. Alors là aussi, c'est la même chose. La Russie, depuis des années, travaille dans l'OPEP+, qu'on appelle l'OPEP+, c'est-à-dire qu'ils ont connu... Alors, les experts russes et les ministres russes qui travaillent dans l'OPEP n'ont pas eu des rapports directs avec les souverains, qu'ils soient émiratis ou qu'ils soient saoudiens, mais ils savent travailler avec des saoudiens, ils savent travailler avec des émiratis, ils savent qu'il y a, dans ces pays-là, des ingénieurs de très haute volée, ils savent qu'il y a des commerçants de très haute volée, ils savent qu'il y a des gens avec qui on peut travailler. Travailler en confiance. C'est ça qui se joue. Alors, simplement, ce vol paraît un peu... C'est une grande cavalcade de Poutine. Mais ça dit tellement de choses sur le changement des relations entre ces pays, et entre tous ces pays-là, entre la Russie et ces pays-là, entre la Chine et ces pays-là, qu'effectivement, l'opposant, l'impérialisme qui est visé, puisque on vise, alors il faut bien rendre compte de où ça se joue. Ça se joue à la principale zone pétrolière mondiale. Alors, bien sûr, il y a la COP X, Y, Z, etc. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, le monde ne peut pas fonctionner sans pétrole. Alors après, on vous dira que peut-être en 2050, il faudra qu'il y arrive. Admettons le pari. Mais de toute façon, à la date d'aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire on arrête le pétrole parce que de toute façon, vous arrêtez la planète entière. Il n'y a plus aucun transport, il n'y a plus aucun navire. Il y a aujourd'hui, on vous parle de bateaux qui vont fonctionner avec l'hydrogène et tout. 90% de la flotte maritime mondiale fonctionne au gasoil. Bon, mettez-vous ça bien dans la tête. Et si vous arrêtez demain matin un diktat de la COP, il n'y en a pas d'ailleurs, la COP n'est pas capable de faire des diktats, on arrête tous ces bateaux, l'économie mondiale s'effondre, elle n'existe plus, tout simplement. Il n'y a plus de camions dans les... Alors bien sûr, on va vous montrer un camion qui marche assez... Bon, ça ne marche pas. Bon. Donc, on est là au cœur de l'actualité, au cœur de la vie de l'humanité, pour au moins plusieurs décennies. Qu'après l'humanité soit... inquiète, et à juste titre, de l'excès de la pollution, le CO2, etc., c'est bien qu'elle le fasse. Mais rendez-vous bien compte que dire yaka, yaka, il faut être avoir l'âge de Greta Thunberg pour dire yaka, yaka, révoltons-nous. Ça ne sert à rien de se révolter. Vous arrêtez tous les bateaux, vous arrêtez tous les camions, etc. Tout s'arrête. La planète s'arrête. Bon. Faut bien avoir ça en tête. Bon, je vous ai donc donné toute une série de cas qui se sont passés, d'événements qui se sont passés en 2023. Et puis, ces événements, ils se traduisent. Alors, ces événements, ils se traduisent dans des institutions, dans des actes, dans des accords, dans des textes, éventuellement dans des traités. Et c'est ça qu'il faut voir. C'est ça qu'il faut voir d'abord en soulignant un fait qui est très très important. Ce grand changement, ce grand chambardement qui est en cours, se fait parce que des États nationaux changent de position et décident de s'allier avec un autre, décident de sortir de l'influence d'un autre, etc. J'insiste là-dessus parce que il y a une mauvaise compréhension de l'internationalisme. L'internationalisme, c'est un rapport fraternel entre des nations et des États-nations qui existent réellement. Et c'est ça qui est nouveau, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut parler de l'État-nation burkinabé, parce qu'il y a aujourd'hui à la tête du Burkina Faso des jeunes, qui disent « on veut avoir notre destin entre nos mains, on veut pouvoir travailler avec qui nous semble un ami, un collaborateur fraternel et correct ». C'est ça, et c'est une nation, c'est le Burkina Faso. Le Niger fait pareil, mais c'est vrai aussi pour tous les autres pays de la planète. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a un impact de ce chambardement dans les comportements des États-nations. Ça ne fait pas disparaître les États-nations. C'est les États-nations qui sont capables de faire ce genre de virage. Il faut des institutions, il faut déjà un État qui fonctionne un peu, qui a des cadres, qui a une administration. Autrement, on ne dit pas, on ne change pas, et qu'est-ce qu'on fait s'il n'y a pas le cadre pour le faire? Donc, il n'y a pas disparition des nations et des États-nations, il y a renforcement de leur autonomie, renforcement de leur capacité à décider par elles-mêmes. C'est ce qu'on appelle le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et les peuples, ils disposent d'eux-mêmes dans un État. Et vous savez que très souvent même, la libre disposition d'un peuple à disposer de lui-même se fait en créant un État. Il y a eu des cas comme ça de sécession. On dit, on décide, on n'a plus rien à faire ensemble et on se crée un autre État. Mais on ne parle pas dans la nature et on ne dit pas, on est sans patrie, sans frontières. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il y a des institutions humaines qui sont là pour organiser les rapports entre êtres humains. Alors, je veux bien, il m'arrive de rencontrer des gens qui disent « Oui, mais il faut faire un gouvernement mondial. » Mais je dis « Réfléchissez deux minutes. » Est-ce que vous vous rendez compte? Regardez le cas de la France, vous y êtes. Vous voyez déjà que c'est compliqué de gérer 67 ou 68 millions de personnes. Qui est en capacité, quelle administration serait en capacité d'administrer 8 milliards d'hommes? C'est proprement délirant. Et donc, il faut bien trouver des structures intermédiaires qui sont les États-nations. On verra après s'ils décident de se regrouper, de faire des choses. Enfin, il y a beaucoup de collaboration. Il faut voir qu'aujourd'hui, un État-nation, même s'il n'est pas dans une structure comme l'Union européenne, c'est le cas de la France, il est lié par des quantités de traités internationaux. Il est lié aux autres nations. Il est lié à la politique de l'ONU, là où elle peut en avoir une. Il est lié aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Les États-nations ne vivent pas seuls, mais ils sont les niveaux de regroupement et d'autonomisation de la volonté populaire. En attendant autre chose, peut-être, mais on n'en est pas là du tout, on n'est pas ailleurs. On est là dans le confortement et l'autonomisation et l'indépendance, l'émancipation des nations qui sont constituées sur le papier. Le cas des anciennes colonies françaises est très révélateur. On a découpé des pays, la France a découpé des pays un peu à la comme je te pousse, j'allais dire. Bon, discutable, en coupant des zones ethniques qui étaient très homogènes, etc., en traçant des frontières souvent à l'équerre et au crayon. Bon, c'est pas très très intelligent. Mais depuis, ce cadre a vécu, il s'est constitué donc des administrations, il s'est constitué donc des citoyens de ces pays-là, qui se revendiquent d'une nationalité, et c'est dans ce cadre-là que l'émancipation peut se faire. Mais ça ne veut pas dire, et l'exemple que j'ai pris au Sahel est très révélateur, l'émancipation simultanée ou très très proche du Mali, du Burkina Faso et du Niger fait que ces trois pays ont tout de suite décidé de travailler ensemble. Mais ces trois gouvernements séparés, qui répondent devant leur peuple de leurs actes, qui travaillent ensemble. Mais la vie contemporaine de la planète, elle est que comme ça. Elle est tissée de toute une série d'accords de toutes sortes, sur la santé, sur l'éducation, sur les transports aériens, sur les satellites. Tout est cadré dans des traités internationaux. Mais les traités internationaux sont des traités qui sont signés par des nations qui les appliquent ou qui décident de ne pas les appliquer. Mais il faut bien voir qu'on n'est pas là la communauté humaine de 8 milliards d'habitants. On s'embrasse tous sur la bouche et tout marche bien. Enfin, le rêve est interdit. Les choses sont trop importantes et trop graves pour rêver. Bon. Donc, je voulais insister là-dessus. Après, on a aussi des émancipations nationales inattendues. Et je vais en citer quelques exemples parce qu'ils ont eu lieu dans la période récente à propos de la question de la Palestine et de Gaza. Qui aurait imaginé que les pays dont je vous donnais le nom qui suit, la Bolivie, petit pays, hein, là, les Comores, donc sans Mayotte, puisque les Comores, c'est toutes les îles sauf Mayotte qui a été volée par la République française à la suite d'un référendum truqué. Bon. Djibouti, tout petit pays aussi. Le Bangladesh, alors c'est moins petit parce que c'est en plus 180 millions d'habitants. Et l'Afrique du Sud. Ces cinq pays, on ne voit pas ce qu'ils ont en commun. Hein. Je vous donne le nom, Bolivie, Comores, Djibouti, Bangladesh, Afrique du Sud. Quel est le point commun ? Parce que il y a des pays à majorité musulmane, il y a d'autres pays à majorité chrétienne, etc. Bon. Et bien, ces cinq pays ont porté plainte contre Israël devant la Cour pénale internationale pour génocide. Ah. Et voilà. Ça, c'est des surprises de ce changement de climat international qu'on n'aurait pas imaginé il y a un an. Alors il a fallu bien sûr qu'il y ait les événements de Gaza pour que cette surprise-là ait lieu. Mais elle n'a pas traîné, ça s'est fait très vite. Comment ces pays se sont parlés ? Pourquoi ? Où ils se sont parlés ? Il y a bien eu des négociations, enfin, des rencontres entre diplomates, des coups de téléphone entre ministres des Affaires étrangères. Et on a réuni cette espèce d'étrange famille, Bolivie, Comores, Djibouti, Bangladesh, Afrique du Sud. Bon. Et bien ces gens-là ont tous déposé une plainte, enfin tous ensemble déposé une plainte, contre Israël à la Cour pénale internationale pour génocide. Bon. Ça alors. Et puis, dans le même contexte et sur le même sujet, la Cour internationale de justice, qui est là une cour qui donc dépend de l'ONU, qui a été créée par l'ONU et qui est dans la charte, la Cour internationale de justice est une espèce d'arbitre qui émet des avis. C'est-à-dire que c'est une cour un peu... Enfin, c'est très surprenant par rapport aux habitudes qu'on a de l'exercice du droit, puisque l'exercice du droit, une cour d'appel, tout ce qu'on veut dans un pays normal, ça prend des décisions qui sont justifiées, ça c'est le travail des juges, mais ça a sorti sa décision de sanction. Sanction, ça veut dire ben, vous avez contrevenu à telle ou telle règle et donc vous avez payé parce que vous avez contrevenu à telle règle, qu'il soit des délits, des crimes, etc. Bon, la Cour internationale de justice n'a pas de bras armés. Elle ne peut pas sanctionner quelqu'un qui n'a pas respecté son avis. Mais ces avis pèsent lourd parce que ces avis disent le droit. C'est-à-dire, ils vont dire, et j'espère qu'ils vont le dire, la Cour internationale de justice a été saisie par la seule Afrique du Sud d'une plainte pour génocide contre Israël. Et la Cour internationale de justice doit, dans quelques semaines, donner un avis pour savoir s'il s'agit bien d'un génocide qui est commis à Gaza. C'est très très important, parce qu'à partir du moment où la Cour internationale de justice dit « je considère que, après tous les attendus, et après avoir fait mon enquête et avoir écouté, mais je crois 14 juges qui sont là et qui ne sont pas des benêts et qui ont une formation en droit solide et qui représentent beaucoup de pays différents », la Cour internationale de justice, elle dit le droit, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la Cour internationale de justice aura dit « je considère, nous, Cour internationale de justice, considérons au nom de l'ONU que Israël est en train de commettre un génocide », à ce moment-là, les plaintes contre l'Israël à la Cour pénale internationale seront bâties sur quelque chose de très solide, puisque les avocats qui porteront plainte et les parties plaignantes devant la Cour pénale internationale, là, ce ne sont pas des États, ce sont des particuliers ou des victimes ou des groupes de victimes de la politique israélienne qui pourront porter plainte. Et le début de la plainte, ce sera dire, considérant que la Cour internationale de justice a reconnu qu'un génocide était en cours, nous attaquons M. X, M. Y. Alors, Monsieur X, vous voyez à peu près qui c'est. Je vous laisse le soin d'y réfléchir. Mais ça aussi, qui pouvait imaginer, il y a un an, en janvier 2023, qu'on assisterait à des événements de ce calibre ? Personne. Personne. Et c'est ce qui se passe. Et puis, alors ça, c'est des réactions nationales, hein, les réactions de la Bolivie, des Comores, etc. Et puis, il y a aussi des réactions internationales, parce que ce changement de climat produit des effets internationaux dans des organismes ou dans des zones géographiques. Alors, un des endroits les plus intéressants et qu'on connaît assez mal parce qu'on n'en est pas très proche et on n'a pas de relations très très intenses avec, c'est ce qui se passe en Asie centrale. Ça, c'est très intéressant. Alors, l'Asie centrale, qu'est-ce que c'est ? Je mets ça avec des noms de pays derrière. C'est l'ensemble des républiques ex-soviétiques qui ont pris leur indépendance en 91 et qui sont toutes isolées loin de la mer, à part la Caspienne pour certains d'entre eux, mais c'est tout. Donc, ils sont enclavés au sein de cet immense continent qu'on appelle l'Eurasie. Alors, je les nomme, en gros, dans l'ordre géographique d'ouest en est. Vous avez le Kazakhstan, vous avez le Turkménistan, vous avez l'Ouzbékistan, vous avez le Tadjikistan et le Kyrgyzstan. Ah, ils sont cinq. Bon, alors, ce qui se passe, c'est que, là aussi, ces gens-là se connaissent. Et ils se connaissaient, alors, ils se connaissaient du temps de l'URSS, mais ils se connaissaient en tant que morceau d'une grande fédération qui était l'URSS. Et ils étaient chacun en relation avec le centre, avec Moscou et avec la Grande Russie. Ils n'avaient pas de lien entre eux. Là, maintenant, ils s'aperçoivent qu'il y a des liens de voisinage et ils s'aperçoivent qu'en particulier, ils sont sur le trajet de la route de la soie inaugurée par la Chine il y a de ça 10 ans aujourd'hui. Ça veut dire quoi, la route de la soie ? Ben, ça veut dire tout simplement qu'il y a des transports. Tous les jours, il y a des trains qui traversent cet espace donc, de l'Asie centrale et qui amènent de la marchandise depuis la Chine jusqu'en Europe et qui amènent aussi de la marchandise depuis l'Europe jusqu'à la Chine, car ça fonctionne aussi dans l'autre sens. Les trains ne reviennent pas tous à vide. Alors on peut évidemment aussi passer par la Russie, qui avait déjà, avec le transsibérien et tout, une façon d'aller à l'autre extrémité du tournier. Mais ce que font les républiques d'Asie centrale, c'est qu'elles... Elles existent maintenant dans le commerce international, elles existent en tant que voisines des unes des autres, elles existent en tant que rapport de travail de confiance, c'est-à-dire qu'il faut que les fameux trains dont je vous parle, qui transportent la marchandise depuis la Chine jusqu'à l'Europe, puissent passer les frontières, n'aient pas de problème d'alimentation électrique, de carburant, etc. etc. Bon, tout ça suppose une économie de confiance entre tous ces voisins. Alors notez-les, on en parle peu, ils sont en train de devenir importants, ils sont d'ailleurs en général assez grands, et ce qui est notable, et ça aussi c'est une évolution de l'année 2023, c'est que jusqu'à présent, il y en a un qui n'avait jamais voulu travailler avec les autres, qui était très soucieux de son indépendance nouvellement acquise, qui s'appelait de Turkménistan, et qui, dans ce cadre, se met à travailler avec ses voisins. Alors c'est très intéressant parce que le Turkménistan a cet avantage d'être un pays quasi désertique, mais avec des réserves de gaz qui sont parmi les plus importantes du monde. Et donc il peut commercer, et il peut se développer à l'échelle de sa population qui est toute petite. Je crois que c'est 4 ou 5 millions d'habitants. Ça, c'est très, très intéressant. Et qu'est-ce qui a patronné ça, ce rassemblement? C'est l'initiative chinoise qui a fait que, du fait qu'il y a ces trains, il faut qu'il y ait des relations d'État à État, que les frontières soient passables, qu'il y ait des contrôles douaniers qui marchent, que les documents douaniers soient authentifiés, acceptés, etc. Il y a tout un travail de... On s'apprivoise, j'allais dire, on s'apprivoise entre voisins et on se met à travailler ensemble. Et on s'aperçoit qu'on a d'abord de grosses ressources. Les ressources minières du Kazakhstan sont considérables. Les ressources gazières du Turkménistan sont considérables aussi. Il y en a d'autres. Il y a des ressources hydrauliques. Enfin, il y a des tas de possibilités. On a donc des pays qui arrivent à un niveau de développement qu'ils n'avaient pas et qui le font parce que la Chine a décidé qu'il fallait s'ouvrir. Et la Chine n'a pas décidé toute seule. Parce que tout cet apprentissage des relations entre ces pays et la Chine et la Russie, ça s'est fait à travers l'organisation de coopération de Shanghai. Alors je m'arrête un petit peu sur cette organisation. L'organisation de coopération de Shanghai, c'est une organisation qui est créée en 2000, écoutez, et qui porte aujourd'hui tous ses fruits. C'est-à-dire que quand on fait travailler ensemble pendant 20 ans, 23 ans, la Chine, la Russie, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan qui était déjà, et les autres petit à petit, on les habitue à travailler en confiance, on fait connaître les hommes d'affaires, on fait connaître les élus politiques, on fait connaître les sportifs, on fait connaître les milieux culturels, on intègre ces pays dans un ensemble. C'est-à-dire que les fruits de l'Organisation de coopération de Shanghai se récoltent maintenant. Et j'en reviens à mon propos initial, c'est-à-dire rien de ce qui s'est passé en 2023, et ça s'est symbolisé, ce que je vous parle, par un sommet Chine-Asie centrale, rien n'était possible s'il n'y avait pas eu 20 ans de travail dans l'Organisation de coopération de Shanghai. C'est-à-dire qu'on ne s'embrasse pas sans se connaître, j'allais dire. On ne se serre pas dans ses bras si on ne s'est pas déjà un peu vu et si on ne s'est pas apprécié. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Ensuite, je regarde l'heure parce qu'il s'est passé là aussi un autre événement qui était potentiellement possible, mais qu'on n'attendait pas comme ça et sous cette forme-là, et ce forme assez surprenante. C'est l'élargissement des BRICS. Alors les BRICS, vous savez, c'est une initiative où il y avait au départ d'abord pas le S, où il y avait donc Brésil, Russie, Inde et Chine, qui était un rassemblement un peu théorique. C'était l'invention d'un économiste qui avait dit « Mais là, on a la fameuse notion de pays émergents, donc des pays avec de gros potentiels en cours de croissance et qui devraient s'habituer à travailler ensemble, c'est-à-dire ne pas passer uniquement par les circuits des grandes multinationales capitalistes états-uniennes ou européennes à l'occasion. » Donc faire connaissance dans les rapports économiques réguliers. Et puis petit à petit, on fait un peu plus connaissance dans des rapports plus politiques. C'est ce qui est en train de se passer. Et puis ça avait été élargi en dernier à l'Afrique du Sud. Et donc il y avait des pays de tout le... ce qu'on pourrait appeler la Russie, c'est un peu à part, mais ce qu'on appelait le monde émergent. Alors la Russie a fait une telle chute dans le classement de la puissance économique au moment de la fin de l'URSS et dans les 10 années qui ont suivi l'effondrement de l'URSS qu'elle était un peu tiers-mondisée, tout en ayant encore sa taille et ses ressources. Et donc là, elle s'était plutôt mise du côté de ceux qui étaient en retard économiquement. Et elle avait pris effectivement un gros retard. Les BRICS, donc, se mettent à travailler ensemble, font connaissance, tiennent des réunions de chefs d'État, tiennent des réunions régulières de ministres des Affaires étrangères, tiennent des réunions de ministres de l'économie, tiennent des réunions de banquiers centraux. Enfin, on apprend à se connaître. Et même au passage, on se dit, tiens, si on se faisait passer un câble sous-marin direct entre nous sans passer par les États-Unis pour envoyer des données, ça serait pas mal. Et on le fait. Ça se fait petit à petit. Ça, il faut. Voilà, ça, c'est 20 ans de travail qui porte ses fruits petit à petit. Et en 2022, alors il y a une présidence tournante, c'est une association. En 2022, c'est la Chine qui donc est le secrétaire tournant pour l'année 2022. Et c'est à ce moment-là que la Chine dit, Et elle dit, vu ce que nous savons maintenant de l'évolution du monde, des difficultés de l'impérialisme et de son affaiblissement, car c'est très clair, il y a un affaiblissement de l'impérialisme, qui a énormément d'armes, des gros budgets, mais qui n'arrive pas à imposer ses vues là où il essaie de l'imposer, voire le cas de l'Afghanistan en particulier. Bon. La Chine dit qu'il faudrait s'ouvrir, élargir ce système donc d'associés sans lien politique étroit, mais on se connaît, on se rencontre, on discute, on met au point des projets communs, des projets économiques en général communs, et il faut le faire. L'idée est lancée en 2022, et elle a porté ses fruits un an plus tard, c'est-à-dire que la réflexion lancée sous la présidence chinoise en 2022 porte ses fruits dans le courant de l'année 2023, on était au mois de septembre, si ma mémoire ne me trompe pas. C'est l'Afrique du Sud qui exerçait la présidence tournante, et à l'issue de la réunion, le président Ramaphosa annonce qu'effectivement, la décision a été prise d'élargir les BRICS. Alors, il n'y a pas eu de communiqué commun parce qu'il se trouve qu'on venait de sortir d'une élection un peu compliquée au Brésil. Ça n'a pas été possible. Bon, mais toujours est-il que, alors je parle du Brésil, il faut savoir que Bolsonaro, qui n'a rien de commun avec l'économie politique et avec le socialisme à la chinoise, avait décidé que le Brésil devait rester dans les BRICS. C'est-à-dire qu'il avait, mais la bourgeoisie brésilienne, l'armée brésilienne, avait considéré qu'il était bien que le Brésil maintienne des liens avec ces pays-là, ces pays émergents, pour éviter d'être entre les bras et sous le contrôle total des États-Unis d'Amérique. Il faut savoir que dans les républiques sud-américaines, le Brésil est celui où il y a une classe bourgeoise et surtout une classe militaire qui veut être relativement autonome par rapport au patron des États-Unis. Alors pourquoi le Brésil ? Parce que le Brésil, c'est quand même, d'abord, c'est le plus grand de tous les pays. C'est un pays qui a de grosses richesses naturelles et c'est un pays qui a près de 250 millions d'habitants aujourd'hui. Donc il pèse très lourd dans l'économie sud-américaine et il peut se permettre de dire « moi, j'ai quand même une certaine autonomie de pensée et de politique par rapport aux États-Unis ». Donc rester dans les BRICS, tout extrémiste de droite que fut Bolsonaro, ça a été possible, il est resté. Et donc les BRICS annoncent au sommet donc de Johannesburg, nous allons accepter 6 nouveaux membres. Et je vous donne les noms de ces 6 nouveaux membres, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et l'Argentine et l'Iran. Alors vous voyez que là aussi, alors Argentine mise à part, je vais en dire un mot, Argentine mise à part, vous avez là encore le Moyen-Orient qui se réorganise pour échapper à la tutelle impériale. Car si vous mettez dans cette même association qui n'a pas de statut, ce n'est pas une organisation internationale avec des droits de vote, des pourcentages, des quotas et tout, mais on se rassemble, on discute et on se met d'accord. Et on ne s'agresse pas. Et on essaye de tenir des positions communes sur des dossiers d'intérêt commun. C'est tout, c'est associatif. Alors, enlevons l'Argentine, et vous avez là encore le cœur de l'économie pétrolière mondiale. Car si vous mettez la Russie, grand producteur, l'Iran, grand producteur, les Émirats Arabes Unis, grand producteur, l'Arabie Saoudite, grand producteur, vous avez là ceux qui tiennent l'économie pétrolière mondiale et l'économie gazière mondiale. Bon. Ça pèse encore lourd, j'insiste là-dessus, je le disais tout à l'heure, mais il faut bien se rendre compte que pour au moins la décennie qui vient, le pétrole est incontournable. Il faudra prendre le temps, mais ne rêvons pas là-dessus. Eh bien voilà, ils y sont. Ils y sont, et donc les BRICS aujourd'hui sont en capacité de rassembler autour d'une table, de discuter tous ces pays-là. Et puis on y ajoute l'Éthiopie. Alors l'Éthiopie, c'est un gros potentiel. C'est un pays, le seul pays d'Afrique qui n'a pas été vraiment colonisé. C'est 120 millions d'habitants aujourd'hui. C'est un très fort potentiel agricole. C'est d'excellentes terres. C'est un gros potentiel minier. Et donc l'Éthiopie a toute sa place, comme l'Égypte qui a aussi 120 millions d'habitants aujourd'hui, comme l'Arabie Saoudite, qui tourne autour de 45 millions d'habitants. Mais de toute façon, le Moyen-Orient est entre les mains des BRICS aujourd'hui. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, si vous ajoutez l'Égypte, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, vous avez là le Moyen-Orient et tous les pouvoirs sont là et l'Iran qui est là aussi. Et ça veut dire que ça n'est possible que parce que l'Iran et l'Arabie Saoudite se sont réconciliés, acceptent de travailler ensemble. Donc tous les phénomènes sont liés les uns aux autres. Et c'est ça qui est très très important. Ensuite, je vous ai parlé du Sahel, à l'évidence, vous avez compris, c'est-à-dire qu'il se passait là quelque chose de tout à fait important, c'est-à-dire début d'émancipation par rapport au colonialisme français et arrivée au pouvoir de couches dirigeantes qui veulent être maîtres de leur destin, en sachant que de toute façon, elles sont dans un monde déjà très clos, le monde est très très unifié. Quoi qu'on dise, alors il n'est pas très unifié dans les opinions, mais de fait, dans les relations quotidiennes, le monde est très très unifié par l'énergie, par les câbles, l'information, enfin tout ça. La planète, elle est relativement unifiée, c'est-à-dire que vous voyez arriver dans nos pays des jeunes gens sortis d'un pays d'Afrique, d'un village, qui sont au courant, parce qu'ils regardent la télévision, de beaucoup de choses en détail qui se passent chez nous et dont nous, on ne se préoccupe pas beaucoup. Et vous les voyez en capacité de faire sur leur téléphone portable des opérations très très pointues dont une partie des citoyens français ne sont pas capables. Parce que, de toute façon, ils sont dans ce bain mondial qui est un bain technique, technologique, particulier et qui s'en sont emparés parce que pour eux c'est vital. C'est-à-dire que vous savez que pour un migrant, la maîtrise du téléphone portable, c'est une question de vie ou de mort. Bon, donc on apprend, évidemment on apprend. Voilà ce monde tel qu'il est. Alors je voulais appeler Sidi, mais je ne sais pas s'il m'écoute, pour passer une petite musique, pour me permettre de reprendre mon souffle, et puis pour essayer de donner une petite vision synthétique de tout ce que je vous ai raconté. Mais j'espère déjà m'être un peu fait comprendre. Voilà, alors ce qu'on va écouter, je vous le dis à l'avance, c'est le troisième mouvement du concerto de Vivaldi qui s'appelle L'hiver. Je ne pouvais pas choisir autrement. Et vous allez voir, l'hiver, c'est en même temps des coups de vent glacés et puis des moments où on attend le printemps parce qu'on commence à sentir les premiers bourgeons qui se préparent.
Thank you.
un petit parfum hivernal avec à la fois des bourrasques glacées et puis l'attente du printemps qu'on sent proche. Et je voulais faire une espèce de synthèse de ce que j'ai pu vous dire très très rapidement. Et la synthèse, en fait, elle est faite. Il y a un pays qui fait ces synthèses-là parce qu'il a décidé de le faire et qu'il est à l'initiative d'une partie, une grosse partie de ces transformations. Il s'agit de la Chine populaire. Alors pourquoi lui ? Parce que lui, c'est un pays qui est gouverné d'une façon ferme, j'allais dire, avec un axe de travail, avec une planification, avec une recherche de résultats, une recherche de confrontation de la réalité avec les résultats. Enfin, c'est un pays socialiste. Alors avec des côtés d'économie de marché, enfin, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là qui agite beaucoup nos gauches européennes, mais il s'agit bien d'un pays avec un pouvoir central fort qui organise le pays, qui organise la société, mais qui organise ses rapports avec l'ensemble de la communauté humaine, avec l'ensemble de tous les autres États. Et il le fait, et il a des résultats, c'est-à-dire, je ne vais pas insister sur le fait que, regardez comment, dans quel état était la Chine en 1949, regardez où elle en est aujourd'hui. Il faut savoir qu'aujourd'hui, elle est en avance technologiquement sur beaucoup d'autres pays, et même sur l'Occident, sur toute une série de sujets. Je donne un exemple, on avait beaucoup fait courir le bruit que les puces, vous savez, les petits morceaux de circuits qu'on met dans nos téléphones portables ou dans nos tablettes, etc., n'étaient pas fabriqués en Chine, ils en fabriquaient, mais qu'ils n'étaient pas d'assez bonne qualité, etc., et que donc ils étaient dépendants de ce qu'ils fabriquent à Taïwan. Bon, pas aux États-Unis, mais à Taïwan même. Et en fait, il se trouve que, et c'est de l'avis des usagers, c'est tout à fait clair, que le dernier modèle de téléphone portable de la firme chinoise Huawei, qui est constitué uniquement avec des produits donc made in China, est de très bonne qualité et donc est au sommet de la technique de ce type d'appareil. Bon. Donc cet obstacle qui existait, paraît-il, a été tourné. Alors il a été tourné, non pas par miracle, et ce n'est pas un effet de propagande, parce que la Chine fabrique tellement, et c'est sa politique qu'elle suit et qu'elle n'a jamais arrêté de suivre, qui consiste à former des dizaines de milliers d'ingénieurs nouveaux tous les ans. Et quand vous faites ça pendant des 40 ans et des 50 ans, vous avez des ingénieurs qualifiés, pointus, dans tous les domaines d'actualité possibles. Et en plus, vous orientez l'activité de ces ingénieurs à travers les programmes des universités dans des secteurs que le plan national a décidé de considérer comme prioritaires. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas s'égarer à faire autre chose que ce pour quoi ils ont été formés. Ils ne vont pas se transformer en spécialistes de ce quoi ils ne sont pas spécialistes. Donc il y a un ciblage de la capacité intellectuelle des étudiants et des chercheurs chinois sur des objectifs qui concernent l'ensemble du pays. C'est pas pour contraindre, c'est pas une dictature sur les chercheurs, c'est pour dire les objectifs que nous poursuivons, qui sont les objectifs d'amélioration du bien-être des 1,4 milliard, car c'est bien ça qui est derrière, passent par la maîtrise de telle ou telle technique, parce que autrement, si nous ne maîtrisons pas cette technique, nous sommes entre les mains de celui qui nous les fournira, qu'il soit américain, allemand ou français ou tout ce qu'on veut, ou japonais. Et donc il faut que nous maîtrisions toutes les techniques qui nous permettent de développer notre pays, sans être à la merci d'un chantage d'un fournisseur capitaliste étranger. C'est ce qu'ils font. Et les résultats sont considérables. C'est-à-dire, l'industrie spatiale chinoise est la plus avancée du monde aujourd'hui en quantité de lanceurs, en capacité de lanceurs. La station non habitée qui fait des prélèvements géologiques sur la Lune, c'était unique en son genre. Et pratiquement, la Chine ne rate jamais un lancement de fusée. Ils ont un programme très très pointu. La Chine a été, autre exemple qui est pris par le président dans ses vœux de fin d'année, là, la Chine a été capable de mettre sur le marché l'année dernière un transporteur, un avion civil aérien, moyen courrier, le C-919, qui n'a aucune pièce qui est fabriquée en Occident. Aucune. C'est-à-dire que personne ne peut leur compliquer la vie. Donc la Chine, en même temps, continue à produire des Airbus dans l'usine de Tianjin. Elle a importé des technologies quand c'était nécessaire. Mais maintenant, elle vole de ses propres ailes. Donc on ne peut pas l'empêcher. Donc c'est un excellent avion qui est en train de démarrer sur le marché. La Chine a fabriqué, je donne quelques exemples pour bien qu'on se rende compte, ce n'est pas des effets de propagande. La Chine a fabriqué un sous-marin donc type bathyscaphe, qui est allé explorer la fosse des Mariannes et qui est allé à moins 10 000 mètres sous l'eau et qui a fait un reportage télévisé sur ce qu'on voyait à moins 10 000 mètres sous les eaux dans la fosse des Mariannes. C'est-à-dire que c'est une avancée dans la connaissance des grandes profondeurs qui est exceptionnelle et dont tout le monde profite, puisque quand ils étaient les chercheurs chinois, les navigateurs qui étaient dans ce sous-marin, avaient un système de caméras, ils pouvaient illuminer cette énorme masse noire d'eau et les créatures qui y vivent. Il y a des poissons qui vivent à la moins 10 000 sous la surface de l'océan. Et ça a été retransmis, enfin ils ont des émissions qui s'est passées en direct sur la télévision publique. C'est-à-dire, et donc il n'y a rien qui est caché, c'est un savoir qui profite à toute l'humanité, à la Chine, mais à toute l'humanité. Bon. Et je pourrais multiplier les exemples, c'est-à-dire que la Chine est désormais dans le peloton de tête des technologies les plus en pointe, là où elle a choisi d'être, c'est très très important à savoir, et elle fait en sorte que ce ne soit pas une façon pour elle, enfin elle veut éviter d'être empêchée dans son développement, mais en même temps, elle tient à partager. Elle tient à partager. Ça, c'est la première idée qu'il faut avoir. Et elle a, à travers ça, à travers ce que je vous ai cité, donc l'exemple de la nouvelle route de la soie, à travers ces traversées de l'Asie centrale, et puis à travers le circuit aussi par la mer, qui pour l'instant est encombrée, est embouteillée dans la mer Rouge, ça c'est l'actualité immédiate, mais autrement, la Chine fait tout pour que les transports et les infrastructures de tous les pays avec lesquels elle travaille s'améliorent. Qu'est-ce qu'elle fait ? Alors c'est ce qu'on appelle l'initiative de la route de la soie, c'est-à-dire que la Chine signe des accords avec toute une série de pays. Alors, ça peut être pour construire un pont, ça peut être pour construire un morceau d'autoroute, ça peut être pour construire un aéroport. Tout ce qui va dans le sens améliorer les possibilités de communication et d'échange et d'ouverture sur le monde, elle est toujours prête à le faire, à le financer, à le cofinancer. Et ça, elle le fait partout. Il faut savoir, rendez-vous compte, que quand il y a eu un sommet de la route de la soie l'année dernière, toujours en 2023, puisque c'était une façon de fêter les 10 années du lancement du programme, il s'est réuni là 153 États. C'est-à-dire que la Chine a passé des accords avec 153 États. Non pas qu'elle ait pris en charge leur économie, pas du tout. Elle a discuté avec chacun des pays. Elle a regardé quels étaient les besoins qu'elle pouvait satisfaire avec ses entreprises, ses ingénieurs, ses capacités à elle. Et elle a dit, là, vous avez un besoin, hein, il vous faut faire un chemin de fer, on vous le fait. On vous le fait dans telles conditions. Vous avez un prêt pour ci, un remboursable comme ci et comme ça, etc. Bon, mais on le fait. Exemple, il le donne dans son interview de début d'année, là, le président chinois. Ils ont fait un TGV entre Jakarta et Bandung, dans la zone la plus intensément peuplée de l'Indonésie. L'Indonésie, qui est un pays qui commence à peser lourd au passage, 270 millions d'habitants, leader de la SEAN et un des pays émergents qui compte dans le continent asiatique et dans l'économie asiatique aujourd'hui. Bon, la Chine, elle n'a pas imposé ses entreprises dans la totalité de l'Indonésie. Les Indonésiens n'auraient d'ailleurs pas voulu. Mais il y a eu un accord. Il y a aujourd'hui un TGV qui fonctionne entre Jakarta et Bandung. Bon. Autre chose. Il y avait un tout petit pays très voisin de la Chine qui s'appelle le Laos, c'est encore un pays socialiste, mais qui était très isolé, tout petit pays peu peuplé, etc., qui a souffert aussi de la guerre du Vietnam. Et il était enclavé, c'est-à-dire il n'a pas d'accès à la mer, il était un peu enserré entre ses voisins. Et donc la Chine, là aussi, a décidé d'ouvrir une voie ferrée avec des TGV qui vont donc de la capitale Vientiane jusqu'à Kunming, donc dans la province du Yunnan, à l'ouest de la Chine. Bon. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a des circulations qui sont possibles. Le Laos peut exporter des fruits qui vont passer par ce chemin de fer et qui vont ensuite partir sur les routes du monde. Tout ça, c'est la philosophie générale de la route de la soie, c'est ça. Donner un petit coup de pouce, amener au bon endroit, au bon moment, le morceau qui permet d'ouvrir l'économie d'un pays sur le monde entier et de participer aux échanges. Ça, c'est la ligne chinoise. La ligne chinoise consiste à dire il faut que nous nous ouvrions. Et d'ailleurs, ça a été très très sensible, puisque dans le discours qu'il a prononcé là, pour les vœux de 2024, le président chinois a dit « Souvenons-nous, il a fait référence à ce qu'était la Chine en janvier 2023. La Chine sortait de l'épreuve du Covid. L'épreuve du Covid, ils l'ont vécu, la Chine et les Chinois l'ont vécu de la façon la plus dure. la plus dure. C'est-à-dire, il n'y a pas eu beaucoup de morts, mais les contraintes sur la vie quotidienne, sur la vie de tous les Chinois, de toutes les familles chinoises, dans tous les endroits où le Covid avait commencé à démarrer, ont été d'une lourdeur à peine acceptable de notre point de vue. On a trouvé que c'était très, très, très dur. C'est-à-dire qu'interdiction de sortir, interdiction de travailler, etc. Hein, on vous livrait des repas, etc. Ça a été très, très dur. Mais ils en sont sortis, ils ont échappé probablement à ce qui était... Enfin, une attaque du Covid, une tentative d'éliminer la Chine par d'autres moyens que des moyens militaires, strictement, je pense. Ça, c'est mon opinion. Et ils se sont aperçus que c'était bien joli d'avoir échappé au Covid, mais que leur activité économique s'est évidemment ralentie. On peut pas, tant tout le monde est à la maison, on fait le minimum. Enfin, le travail se réduit au minimum de la subsistance et de la survie quotidienne. Bon. Et donc, ils se sont dit, on a reculé en matière de production économique, on a stagné, et maintenant, il faut redémarrer. Et ce que dit Xi Jinping là, en janvier 2024 ou le 31 décembre 2023, c'est dire, souvenez-vous qu'en janvier 2023, on a pris la décision de dire, tant pis, bon, on a des vaccins, on a vu comment on pouvait se prémunir contre une nouvelle attaque d'une grande épidémie, mais maintenant il faut repartir dans notre ouverture. Notre ouverture, c'est notre leçon pour l'ensemble de l'humanité. Il faut travailler ensemble, il faut se parler, il faut échanger des propos, il faut échanger des réflexions, il faut échanger des marchandises, il faut échanger des savoirs, tout ça. Et l'humanité, alors c'est là que l'apport de la Chine est considérable, l'humanité est une, et elle doit réfléchir et elle doit s'organiser pour penser son avenir commun. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de position plus anti-impérialiste que celle-là. Alors je le dis, ça paraît très, très banal de dire, ben oui, on a un avenir commun. Alors nous, l'avenir commun qu'on nous vend en Occident, c'est l'avenir commun, c'est la catastrophe, le CO2, la chaleur, etc. On nous vend que de la catastrophe avec pas beaucoup de moyens. Pas beaucoup de moyens, on dit chacun doit se débrouiller, alors faites du vélo, mais il n'y a pas de conscience politique collective. Et donc on nous astreint à nous-mêmes nous morigéner, compliquer notre vie, être toujours en situation d'être coupable. Je suis coupable de polluer, j'ai acheté ceci, c'était pas bien, j'ai fait de la voiture, c'était pas bien, etc. Alors qu'au fond, aucun de ces problèmes ne se règle si on ne les règle pas au niveau collectif. Car de toute façon, quand vous achetez un produit, quoi que vous achetiez, c'est pas vous qui avez décidé de ce qu'il y a dedans. Et c'est pas vous qui avez décidé de la quantité d'énergie qui a été nécessaire pour le fabriquer. Vous ne décidez rien. Donc, effectivement, il y a besoin d'une prise en charge collective de tous ces problèmes-là. Et la prise en charge collective, ça a un nom, ça s'appelle le socialisme. Mais c'est un mot qu'on n'ose plus prononcer parce qu'il a été tellement galvaudé, tellement... Mais c'est bien ça, c'est-à-dire que les problèmes collectifs, c'est-à-dire le problème du réchauffement climatique est un problème collectif, mais il doit être pris en charge collectivement. Il ne doit pas être pris en charge chacun dans son coin, « Mon Dieu, j'ai pollué, oh, je vais arrêter de prendre l'avion, etc. » Ou d'autres qui disent « Moi, je m'en fous, je prends l'avion autant que je veux, etc. » Non, là, on est dans des espèces d'aventure individuelle ou d'errement individuel par rapport à un problème collectif. Les problèmes collectifs doivent être traités collectivement. C'est ça que fait la Chine. Alors, le fait de toute une série de façons, en circulant d'abord, la diplomatie chinoise est extrêmement active, j'en ai donné des exemples flagrants. La direction chinoise réussit à passer par-dessus des problèmes, par exemple l'amitié avec le Vietnam, pays socialiste aussi, a passé un cap, c'est-à-dire qu'il y a eu de très mauvais moments dans les relations entre la Chine et le Vietnam il n'y a pas si longtemps dans l'histoire, puisque la Chine a même tenté de faire la guerre au Vietnam, et d'ailleurs elle en a beaucoup pâti. Bon, donc ça s'est passé. Les relations que la Chine entretient avec tous ses voisins sont de... Enfin, excellente dans tous les cas. Et la politique générale qui est menée consiste à rencontrer tout le monde, faire des propositions faciliter les échanges de toutes sortes, l'échange économique étant bien entendu central. Il s'agit que le progrès matériel avance chez tout le monde. Il s'agit en aucune façon d'imposer un système. Les BRICS, pour ça, sont tout à fait révélateurs. On ne demande pas à un pays qui rentre dans les BRICS de voter, de dire qu'il est socialiste. L'Iran n'est pas socialiste, la Russie n'est pas socialiste jusqu'à nouvel ordre, l'Arabie Saoudite non plus. Bon, donc il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de dire, c'est une vérité tellement élémentaire et tellement évidente, nous sommes tous sur le même bateau. mais le dire d'une façon positive. Nous sommes tous dans le même bateau, donc on doit s'exprimer. On doit trouver les moyens de discuter en tant que participants sur le même bateau. Et ça, ça passe en général, je l'ai dit, par les États-nations. Mais ça passe pas par une espèce de... on se bat, on se fouette soi-même en disant « Mon Dieu, j'ai trop pollué, ci et ça et tout ». Non, je n'y suis pour rien. Si ma voiture pollue, c'est parce qu'il y a un constructeur qui m'a vendu et qui a fabriqué des voitures polluantes. C'est pas moi qui ai décidé qu'elle polluerait. Alors, après, on bricole, on fait des petits arrangements, mais aussi les espèces de mortifications individuelles par rapport à la consommation sont des mortifications inutiles, parce qu'elles ne frappent pas au bon endroit. Il faut se mobiliser là où ça se décide, là où ça se construit, là où le capital s'accumule. Et donc, le capitalisme, lui, il ne pense pas à la pollution. Le capitalisme, il s'en fout de la pollution. Le capitalisme, il veut rémunérer ses actionnaires. Et c'est là-dessus qu'il faut aller vers une espèce de conclusion. C'est-à-dire que l'avenir de l'espèce humaine, il n'est pas dans le capitalisme. Le capitalisme, c'est l'égoïsme. Le capitalisme, c'est moi d'abord. Le capitalisme, c'est j'écrase le concurrent. Le capitalisme, c'est l'argent avant tout. Ça, ça n'a pas de sens, et c'est ça le message de la Chine actuelle à la planète et à l'humanité, c'est dire là, vous êtes sur une mauvaise route parce que les gens qui vous gouvernent, qui sont des capitalistes, sont en train de vous emmener dans leur sens, c'est-à-dire pour leur business, pour leur argent, pour leur loisir, pour leur yacht, pour leur week-end aux Bahamas. Ils sont dans une fausse route, ils s'intéressent qu'à eux-mêmes, ils ne s'intéressent pas au sort de l'humanité, et quand il vous parle du sort de l'humanité, c'est pour vous obliger, vous, à vous rendre malheureux parce que vous n'avez pas fait tout à fait ce qu'on vous a dit de faire. C'est pas là que ça se joue. Ça se joue dans les niveaux collectifs. Bien entendu, j'ai pas beaucoup parlé de la France, parce que la France est dans un état, elle est d'abord dans l'Europe, dans l'économie où elle est, et puis elle est dans un état politique extrêmement inquiétant, et elle n'est pas en capacité, enfin ses élites dirigeantes ne sont pas en capacité aujourd'hui de lui faire prendre un autre chemin. Mais je pense qu'à un moment donné, ce vent-là tournera. On en parlera ensemble aussi longtemps que nécessaire. Merci de votre attention. Merci Sidi d'avoir passé encore cette belle soirée entre nous. Et on vous retrouve bien entendu sur les ondes de Radio Galère tous les mardis jusqu'au prochain mensuel dossier du mois de février. Bonne soirée.
Le temps des cerises et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons, le temps des cerises sifflera bien mieux.